Bon sabbat à tous, à toutes. Quel beau soleil. Quelqu'un a dit qu'il aurait échangé le soleil pour la chaleur. Moi, je dis j'aurais gardé le soleil et j'aurais pris aussi la chaleur. Je suis très, très gourmand. Aujourd'hui, j'aimerais que nous portions une attention particulière à un passage dans Nombre, chapitre 18. Concernant l'une des 12 tribus d'Israël, que Dieu a spécifiquement choisi et il l'a distingué pour les mettre à son service, mettre les membres de cette tribu à son service. Il s'agit bien sûr de la tribu de Lévi. Les descendants de cette tribu sont appelés les Lévites. Alors, nous allons voir dans quel but, dans ce premier message, premier demi-message, dans quel but Dieu les a choisis, et nous allons apprendre de ces textes davantage sur notre rôle en tant que des aides à notre grand sacrificateur qui est Jésus-Christ. Il y a un parallèle entre l'institution des Lévites et ce que nous faisons aujourd'hui. Alors, le passage est dans Nombre 18 pour commencer, au verset 20. Nombre 18, verset 20. Une recommandation de la part de Dieu, ou une parole de Dieu, qui d'ailleurs pourrait servir de titre, un extrait va servir de titre, si vous voulez, à ce message. C'est « L'Éternel dit à Aaron, tu ne posséderas rien dans leur pays », en parlant de toi et bien sûr tous les Lévites, on va voir ça, « et il n'y aura point de part pour toi au milieu d'eux », c'est-à-dire des autres tribus d'Israël, « c'est moi qui suis ta part, ou ta portion, et ta possession au milieu des enfants d'Israël. » Alors, on va voir un peu en quoi Dieu peut être notre part, et on va voir en quoi les Lévites sont pour nous, dans certains aspects de leur service à l'Éternel, un exemple pour nous. Alors, qu'est-ce que ça voulait dire que tu n'auras pas de part au milieu d'eux, c'est moi qui suis ta part? Est-ce que ça voulait dire que les Lévites ne posséderaient pas des biens? Réponse, non. Ils pouvaient posséder des biens matériels comme les autres Israélites. Est-ce que ça voulait dire qu'ils ne pouvaient pas habiter des maisons comme les autres citoyens d'Israël? Réponse, non. Ils pouvaient avoir leur maison. Mais cela signifiait quelque chose de très précis, c'est qu'ils n'auraient pas un territoire unique en Israël qui leur serait réservé en tant que tribu. Okay? Dans lesquels ils seraient tous regroupés, parce que la terre, la portion, la grande portion de terre en tant que tribu, ce n'était pas leur héritage. Ils devaient être dispersés, ou si vous voulez, répartis, pour être mieux dit, dans Israël. En fait, ils étaient répartis dans 42 villes, plus 6 villes de refuge. Alors, c'est quand même placés un peu partout sur le territoire. Pourquoi ils étaient placés comme ça? On va voir que c'est parce que, bien sûr, ils devaient avoir une influence sur les autres tribus d'Israël. Alors, ils ne devaient pas penser à rester regroupés en un seul territoire, parce que dans leur pensée, ils devaient penser non pas au territoire, mais à l'auteur de ce territoire, à celui qui avait donné à tous les enfants d'Israël la terre promise. Okay? Ils devaient avoir un rôle particulier. Ce rôle devait les distinguer des autres Israélites, et donc ils devaient avoir l'Éternel comme leur part et comme leur possession. Alors, l'Israélite, on va le voir, était regroupé en partie autour du coffre de l'Alliance, ou si vous voulez, du tabernacle, mais aussi donc dans 48 villes en tout. Voyons tout de suite un élément qui nous ressemble entre eux et nous, c'est que nous aussi, Dieu nous a positionnés dans des assemblées un peu partout sur le territoire du monde. Et nous sommes ses représentants. Il nous a placés dans le corps du Christ, là où il l'a voulu. Nous avons été choisis et nous avons été placés là où il l'a voulu. Un passage très important de la première lettre aux Corinthiens 12, 18. Première lettre aux Corinthiens 12, 18. Voyons ce parallèle que que comme les Lévites ont eu des villes qui leur appartenaient ou avaient une place qui leur appartenait en propre, mais en étant répartis, il est dit au verset 18 de 1 Corinthiens 12, « Maintenant, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il l'a voulu. » C'est son choix. Okay? C'est son choix. Maintenant, on va voir trois domaines, éventuellement, mais avant de le voir en partie, on va d'abord comprendre que les Lévites étaient distingués des autres Israélites de d'autres façons. Par exemple, ils n'étaient pas dénombrés, c'est-à-dire leur inscription en tant que personne n'était pas dans le même livre que les autres. Ils étaient sur une liste à part. Et contrairement aux autres membres du peuple d'Israël, qui, eux, étaient dénombrés à partir de l'âge de 20 ans pour faire partie de l'armée de l'Éternel, les Lévites, dès leur jeune âge, étaient quand même comptés par Dieu. Oui, ils pouvaient, dans un sens, faire partie de l'armée de l'Éternel, mais ils avaient un service particulier entre l'âge de 25 jusqu'à 50 ans. Donc, pendant 25 ans, ils étaient concentrés sur une fonction au sein du peuple d'Israël. Nombre, chapitre 8, versets 24 et 26 maintenant. Nombre 8, versets 24 et 26. Nous allons voir que ce temps de service, tout en étant fixé dans le temps, n'avait pas de limite dans un certain aspect de ce service qui est l'entraide. OK? Voici le verset 24 qui dit ceci, nombre 8, verset 24. « Voici ce qui concerne les Lévites, depuis l'âge de 25 ans et au-dessus. Tout Lévite entrera au service de la tente d'assignation pour y exercer une fonction. » Alors, le Lévite avait le temps de se préparer à cette tâche, plus de temps même que pour les hommes pour aller à l'armée. « Depuis l'âge, par contre, verset 25, de 50 ans, il sortira de sa fonction et ne servira plus. » Et le verset 26, dans la version Louis II, donne vraiment le sens. « Il aidera ses frères dans la tente d'assignation. » Il les aidera, OK, pour garder ce qui est remis à leur soin, mais il ne fera plus de service. Autrement dit, il deviendra libre de toute charge, mais il va avoir le privilège, la liberté aussi de servir ses frères. Alors, ça devait être un petit peu notre approche, d'ailleurs, lorsqu'on tombe à la retraite, c'est est-ce qu'on est plus disponible pour servir, mais librement, hein, on devient plus libre de décider où on sert et comment on sert. Alors, ici, dans la première lettre de Pierre, on va voir que nous aussi, comme les Lévites, même les Lévites, on pourrait dire, à la retraite, notre choix est volontaire, c'est-à-dire nous faisons volontairement les choses de Dieu. On le fait pour aider les frères, pour aider l'œuvre de Dieu, mais c'est comme volontaire. Remarquez la première lettre de Pierre, chapitre 4, verset 10. « Comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, c'est-à-dire des bons distributeurs, que chacun de vous, c'est vous, c'est moi, mettre au service des autres le don qu'il a reçu. » On le fait volontairement et on se met au service des autres. On aide nos frères. Alors, voyons maintenant trois tâches particulières que les Lévites avaient. On va les retrouver un petit peu plus loin, dans Deutéronome 10, verset 8. C'est clairement établi ici trois éléments, trois aspects de leur service, ou de leur fonction, ou de leur raison d'être. Deutéronome 10, verset 8. « En ce temps-là, l'Éternel sépara la tribu de Lévi et lui ordonna de porter l'arche de l'Alliance de l'Éternel, de se tenir devant l'Éternel pour le servir et de bénir le peuple en son nom, ce qu'elle a fait jusqu'à ce jour. » C'est pourquoi Lévi n'a ni part ni héritage avec ses frères. L'Éternel est son héritage, sa part, son héritage, comme l'Éternel, ton Dieu, le lui a dit. Alors, voici les trois aspects du rôle des Lévites listés ici. La première, il lui ordonna, c'est-à-dire à la tribu de Lévi, un, de porter l'arche de l'Alliance de l'Éternel. Première tâche. Deuxième tâche ou deuxième fonction, de se tenir devant l'Éternel pour le servir. Et le troisième est de bénir en son nom. OK. Alors, première tâche, on va voir ça un petit peu plus en détail. Porter l'Alliance de l'Éternel. Vous allez dire, mais comment on peut faire ça? Ça appartient vraiment aux Lévites, hein? Parce que d'abord, on ne sait pas où est l'arche maintenant, aujourd'hui. Alors, est-ce qu'on est en chômage pour ça? Juste comme pour vous d'abord illustrer un petit peu ce qui se faisait, il y a beaucoup d'instructions entre Exode puis Deutéronome, hein? Concernant le rôle de chacun des membres du peuple de l'Éternel, mais il y a beaucoup de directives concernant les Lévites comme tels. Donc, dans la première fonction qui est de porter l'arche, est-ce que vous saviez que, d'abord, il y avait trois fils survivants à Aaron? Je dis trois fils survivants, il y en a deux qui sont morts pour avoir mal fait le service, mais les trois survivants avaient des tâches différentes. Du moins leurs descendants, ok, ils étaient plusieurs quand même au temps de Moïse, ok, pendant 40 ans, et au moins ils n'ont pas chômé avec la directive de Genèse, hein, allez multipliez-vous, ok. Alors les fils de Kehath, ça c'est un des trois frères qui restait, ils démontaient eux le lieu très saint. Est-ce que vous vous souvenez que dans le tabernacle il y avait une partie qui avait beaucoup de choses à l'intérieur, hein? Il y avait le chandelier, il y avait la table des pains de proposition, il y avait bien sûr, surtout l'arche de l'Alliance comme telle, appelée aussi coffre de l'Alliance. Alors, il y avait les fils de Kehath qui étaient spécifiquement consacrés à démonter les objets qui étaient dans le lieu très saint et à les transporter. Maintenant, ils ne pouvaient pas toucher aux objets, c'était seulement le sacrificateur qui pouvait les toucher, donc c'était on pourrait dire le père, parce que Kehath, lui, était sacrificateur, mais les enfants ne l'étaient pas automatiquement. Les descendants devaient être lévites d'abord. Tous les lévites, c'est-à-dire tous les sacrificateurs sont lévites, mais tous les lévites ne sont pas sacrificateurs, OK? Alors donc, cette première catégorie démontait le lieu très saint, les fils de Kehath. Les autres étaient les fils de Gershon. Eux, ils avaient une tâche, c'était de démonter les toiles du tabernacle. Au-dessus du tabernacle, il y avait des peaux, hein? Il y avait plusieurs couches de peaux, des grandes peaux, et eux avaient la fonction des plier, des démonter, des plier, des charger et des transporter. Les fils de Merari, la troisième catégorie, eux autres devaient démonter tout ce qui restait. C'était beaucoup. Il y avait toute l'enceinte, hein, de la cour, entre autres, qui entourait le tabernacle, ils devaient démonter tous les poteaux, toutes les bases, les socles, les cordes, et ils devaient aussi transporter ça. Si vous voulez voir ces catégories-là, vous pouvez prendre nombre 4, verset 3, jusqu'au verset 33, là, c'est tout réparti, ça. Mais ce qui nous intéresse là-dedans, c'est qu'est-ce que ça veut dire pour nous porter l'arche de l'Alliance de l'Éternel? Bien, c'est ce qui est surprenant, c'est que c'est nous qui portons, n'est-ce pas, la présence de Dieu. Nous sommes le temple de Dieu et nous portons à l'intérieur de nous la présence même de Dieu. Nous portons l'arche de l'Alliance en nous, autrement dit. Et dans l'arche, on le sait, ou dans le coffre de l'Alliance, il y a plusieurs choses, entre autres les tables de la loi, comme ça a été dit dans la prière. Combien j'aime ta loi, parce qu'on doit en prendre soin et on doit la transporter. Il y a aussi l'autre chose, la manne, hein? La nourriture de Dieu, on porte ça aussi. Okay? Il y a tout le symbolisme. Alors, nous pouvons dire que nous accomplissons cette première tâche en portant la présence de Dieu partout où l'on va. Hein? Maintenant, ça peut être dangereux. Espérons que c'est surtout dangereux pour les autres, mais ça peut être dangereux pour nous. Est-ce qu'il y en a qui se souviennent de l'histoire de Uzza? Uzza, Hein, cet homme qui était plein de bonne volonté, on ne veut pas être comme les scribes qui savaient beaucoup la parole de Dieu, mais qui ne comprenaient pas comment Jésus expliquait. Okay? On veut faire ce que l'apôtre Paul nous dit dans la lettre aux Éphésiens. Il a fait une prière, on peut certainement faire cette prière la nôtre. C'est la mienne pour vous, j'espère que c'est la vôtre pour moi. La première lettre, pardon, il y a une seule lettre, la lettre aux Éphésiens, chapitre 1. Plus de compréhension, Père, pour ta pensée en nous, s'il te plaît. C'est ce que nous demandons, c'est ce que l'apôtre Paul a demandé. Lettre aux Éphésiens, chapitre 1, verset 18. Cette prière est celle-ci que Dieu, à partir du verset donc 18, illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez. Donc, une illumination qui doit venir, il y a comme une lumière qui doit se faire pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, et troisièmement, quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu encore de sa force. Remarquez que Pierre, Paul, Jésus-Christ parlent tout le temps de sa force. Non pas que notre force ne doit pas être investie, on doit aimer Dieu de toute notre force, mais ce n'est pas suffisant. Nous avons toujours besoin de sa force, de son esprit, de sa compréhension. Okay? On est tous d'accord là-dessus. Mais remarquez ici qu'il parle que nous devons être illuminés pour voir la grandeur de la puissance de Dieu. Frères et sœurs, est-ce que nous sommes satisfaits de la puissance de Dieu dans nos vies? Comment il se sert de nous avec puissance? Moi, je ne suis pas satisfait. Nous devons prier pour que cette puissance augmente et nous devons prier pour qu'elle augmente, pas juste pour moi, pas juste pour l'Assemblée ici, mais pour le corps, comme disait la définition qu'on a eue du message par Harold, de cet organisme vivant. Quel est le corps du Christ, l'Église? Je pense que plus les temps vont avancer, plus nous aurons besoin de cette puissance. Mais pourquoi pas commencer déjà à la demander pour l'exercer davantage. Alors, l'apôtre Paul embarque dans la pensée de Pierre en disant, il faut que vous demandiez sa force. Et Pierre a dit, nous devons remplir un ministère en ayant la force ou la capacité que Dieu nous communique. OK? Mais qu'est-ce que ça veut dire en plus? Comment ça se communique? Le mot est important, communiquer. Du moins dans Louis II. C'est un mot qui est la traduction d'un mot grec. Et je vais vous donner une image que le mot grec nous dit. C'est de valeur, mais des fois, il faut aller dans qu'est-ce que Paul pensait à l'époque. Quel était le contexte pour comprendre l'ampleur? OK? Le mot ici évoque l'image suivante. Dieu est comme un chorégraphe. Vous allez dire, bien, c'est drôle ça, moi. Il y en a qui aiment la danse, n'est-ce pas? Je ne sais pas si vous avez déjà vu des danses extraordinairement parlantes. OK? Qui vous ont atteint en disant, wow! C'est tout un message qu'il y a dans cette danse. Mais Dieu est comparé ici à un chorégraphe qui va nous transmettre, parce qu'on est son équipe, les pas que nous devons faire, la musique que nous devons suivre, le rythme de la pièce que nous jouons. Et tout ça, parce que le mot aussi inclut chef d'orchestre. Et en même temps, directeur de chorale. Donc, Dieu est tout ça. Chorégraphe, chef d'orchestre, OK, et finalement, chef de chorale. OK, chef de chœur. OK, ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que Dieu doit tout nous communiquer. Tout. Ça doit impliquer, il doit toucher à nos cordes vocales, doit toucher à nos muscles, il doit toucher à nos émotions, il doit toucher à notre intelligence, il doit toucher à notre créativité, si nous lui en donnons la permission, bien sûr. Et nous le voulons. C'est ce que nous faisons. Alors, exercer notre service de Dieu, le service de Dieu, c'est assister notre souverain sacrificateur selon le don qu'il nous a donné. Et, bien sûr, vous allez dire, mais moi, je ne sais pas exactement c'est quoi mon don. C'est fort possible, hein? Et même, je pourrais dire, mes dons, parce que on a tous un don commun, on a tous le même, c'est le don du Saint-Esprit. OK? On l'a, ça. Mais la manifestation de ce don peut se faire en d'autres formes, en plusieurs éléments. OK? La Bible est claire là-dessus, elle liste beaucoup, beaucoup de dons possibles. OK? Ce n'est pas le temps aujourd'hui de parler de tout ce qui est possible, mais je pense qu'on peut tout de suite, dans cette idée de que l'Éternel est notre part, dire, écoute Dieu, le don du Saint-Esprit là, que tu m'as donné, peux-tu l'activer davantage? Peux-tu faire que j'en sois vraiment rempli? Vous savez, on a passé beaucoup de temps, peut-être, dans notre vie chrétienne, les plus vieux, à boucher des fois les trous de notre caractère ou de pour pas que ça, le Saint-Esprit ait des fuites. Hein? Mais je veux dire une chose, c'est très utile qu'on fasse cela. Mais si le Saint-Esprit est en quantité énorme, à ce moment-là, on a le temps d'aider et d'aimer. Et tout ce qui s'en va par les fuites peut devenir même utile. OK? C'est-à-dire que Dieu est beaucoup plus généreux que parfois on se l'imagine. Alors, ça, c'est d'être au service de Dieu en tant que Lévite. Dernier point, de bénir le peuple en son nom. OK? Il nous reste quelques minutes pour le faire. Mais quelles sont les personnes à bénir? N'oublions pas que les Lévites étaient une société au milieu d'une société. C'est-à-dire, ils formaient une société à part, mais dans la société de tous les Israélites. Ils n'en étaient pas séparés, ils en étaient des instruments. OK? Ça veut dire quoi pour nous? Certes, on sait que nous sommes comme des disciples saints, qui sommes enseignés à chaque jour par Jésus-Christ. Mais savez-vous que même les disciples, quand ils étaient disciples, même quand ils n'étaient pas encore complètement formés, ils étaient constamment dans des stages pratiques. C'est-à-dire que même s'ils n'étaient pas complètement prêts, Dieu les utilisait pour aller dans la population et amener la sagesse que Jésus-Christ leur communiquait et la puissance que Jésus-Christ leur communiquait. Alors, les Lévites, oui, se bénissaient entre eux, mais ils bénissaient tous les autres aussi. OK? Vous savez, l'adversaire, je parle pour moi, je sais qu'il aimerait nous isoler de tous ceux que nous pourrions influencer et que nous avons à influencer. Il aimerait nous isoler, entre autres, de nos enfants, pour qu'on ne puisse pas autant les influencer. Il aimerait nous isoler de notre communauté. Et il aimerait aussi nous isoler même de notre peuple. Que nous soyons Québécois, du peuple qui nous appartient, ou auquel on appartient, les Québécois, que nous soyons d'une autre nationalité, il voudrait nous faire croire que nous n'avons pas d'influence sur nos peuples. Bien, les Lévites devaient bénir tout le monde. Voyez-vous? Nous sommes des bénédictions sur deux pattes. OK? Et ça se faisait, entre autres, c'est une des façons, par les 6 villes de refuge. Qu'est-ce qu'était une ville de refuge? C'était des Lévites, assemblés comme une communauté, qui accueillaient celui qui, par mégarde, était à la mauvaise place au mauvais moment et avait commis un péché contre même, je pourrais dire, sa volonté en tuant quelqu'un par mégarde, OK? Par accident. L'image de ça pour nous, c'est quoi aujourd'hui? Ben écoute, on est tous les premiers à avoir eu accès à la ville de refuge. On était tous des fugitifs, hein, ou que l'adversaire talonnait pour réclamer notre perte, hein, pour se venger de ce que nos péchés. Et nous nous sommes réfugiés dans la ville de refuge de l'Église, de Dieu. OK? Et quelle est notre tâche, maintenant que nous formons une ville de refuge, nous-mêmes, bien, c'est de laisser les autres aussi venir et dire, venez vous réfugier, nous allons voir comment s'appliquent les principes de justice ensemble, et nous allons voir si vous êtes repentis, si vous vous êtes détournés, si vous avez besoin, n'est-ce pas, du pardon de Jésus-Christ. C'est ce que Jésus-Christ vous offre. Alors, ça fait partie, bien sûr, de notre tâche de Lévite. Mais vous savez, ça se peut que des fois, on se détourne de notre tâche. En tout cas, Jésus-Christ a cru bon de le signaler. Que parfois, Dieu s'attend à ce que vous et moi, on fasse quelque chose, et on ne le voit pas, ou on ne préfère pas le voir, et Dieu doit utiliser quelqu'un d'autre pour le faire, et ce quelqu'un d'autre n'est même pas parfois un enfant de Dieu. Que ce soit pour nous provoquer à la jalousie, au zèle, OK? C'est dans la parabole qu'on appelle nous, pardon, j'ai entendu Carl traduire en arrière, j'ai switché avec un mot, hein, switché, ça c'est un bel anglicisme, avec un mot anglais, j'ai dit « of », la parabole « of ». Ça, c'est la parabole de, en fait, du bon samaritain. Alors, vous connaissez l'histoire, hein? C'est l'histoire d'un homme qui s'en allait, je pense, vers Jéricho. En tout cas, il est tombé parmi les brigands, ils l'ont battu, puis ils l'ont laissé à demi-mort. Et voilà, au verset 31, qu'est-ce qu'on lit? On approche de la fin, mais pourtant la tâche est devant nous. Verset 31, un sacrificateur. Luc 10, verset 31, « Un sacrificateur qui par hasard descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. » Je pense à une autre traduction, « se détourna. » Verset 32, « Est-ce qu'un enfant de Dieu qui a une tâche de Lévite pourrait faire la même chose? Un Lévite qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. » Et on connaît le reste, un Samaritain qui voyageait, c'est-à-dire un non-converti, hein, qui voyageait, était venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha, banda ses plaies, en y versant de l'huile et du vin, et remarquez tout ce qu'il a fait, il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Wow! Appelé à bénir, c'est de prendre soin de la personne dans son besoin au moment où il se présente. Le besoin. Et où aussi la personne est devant nous. En passant, l'homme était tellement à demi-mort qu'il n'a rien demandé, hein? Rien demandé. Mais le Samaritain a vu le besoin. Et moi, je prie, frères et sœurs, je vous le dis franchement, pour avoir cette compassion du Samaritain, parce que moi, mes yeux sont comme ça, là. J'ai tellement de choses à faire, j'en ai plus tellement, là. Je suis à la retraite, mais dans ma façon de penser, là, je suis comme ça, là. Mais on va droit, là. Et tout ce qui est en dehors de mon but, ben, c'est éliminé automatiquement. C'est un réflexe. Alors, j'ai besoin que Dieu me transforme. Première lettre de Pierre, on arrive à la dernière écriture. Il me reste 2 minutes pour conclure. Première lettre de Pierre, chapitre 3, verset 9. Regarde, remarquez, c'est bien dit. Et en passant, apprendre à bénir, le meilleur outil, si jamais ça vous arrive, là, le meilleur outil de formation, c'est quand on se fait marcher ses pieds. C'est là qu'on apprend à bénir, vraiment. Parce que là, on ne fait plus de distinction à qui bénir, qui ne pas bénir. C'est, vu qu'on doit bénir, Ben, le test, c'est est-ce que je vais pouvoir être capable de bénir celui qui marche sur les pieds? Ne rendez pas, une première lettre de Pierre, 3:9, ne rendez pas le mal pour le mal ou injure pour injure. Bénissez. Au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés. La troisième tâche sacrificateur, c'est du Lévite, c'est de bénir. C'est à cela aussi que nous sommes appelés, afin d'hériter bénédiction. Quel privilège nous avons, frères et sœurs, de nous tenir en présence de l'Éternel pour recevoir sa force et ses dons spirituels, de le servir avec tout notre être, notre corps, nos émotions, notre esprit, et de bénir toutes les personnes à laquelle, que nous rencontrons et à laquelle nous pensons. Exerçons ces privilèges avec générosité, simplicité et constance. Et quel sera le résultat? Nous porterons éternellement la nature divine. Nous nous tiendrons éternellement sa présence pour le servir. Et nous hériterons la bénédiction lorsque Jésus dira, « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume de Dieu. » Thank you.